Un air d'actu avec Serge Carrel.
Voilà tout juste 3 mois, nous recevions des représentants d'ONG et d'églises impliqués dans l'aide humanitaire aux victimes de la guerre en Ukraine. Le temps a passé, d'autres sujets en lien avec l'Ukraine nous ont intéressés, mais peu avant le passage à la grille estivale de votre radio, nous voulons faire le point avec un représentant de l'ONG MEDER et 3 représentants d'églises impliquées dans l'aide, une représentante de l'Armée du Salut et 2 représentants du Gospel Wave. Madame, Monsieur, bienvenue. Jean-Bernard Paltet, bienvenue.
Bonjour.
Alors, vous êtes le directeur de la communication à MEDER, cette ONG chrétienne dont le siège est à Écublens, près de Lausanne. Actuellement, comment est-ce que vous voyez la situation en Ukraine ?
Alors, la situation en Ukraine reste très incertaine, puisqu'évidemment, il est très difficile de prévoir comment le conflit va évoluer. Ce qu'il y a de certain, c'est que les besoins humanitaires restent extrêmement importants sur place, puisqu'on a 8 millions de personnes qui ont été déplacées de l'est de l'Ukraine vers le centre et l'ouest du pays, et avec des besoins extrêmement importants en articles de première nécessité, en soutien psychologique et social, et avec également un gros besoin de reconstruction, de réparation d'infrastructures qui ont été détruites, infrastructures de santé, infrastructures d'eau potable, etc. Et la situation reste très incertaine, même si aujourd'hui le conflit se concentre dans l'est du pays. On ne sait absolument pas comment les choses vont évoluer. On est visiblement dans des journées absolument critiques où les choses peuvent basculer d'un côté ou de l'autre.
Alors, il y a 3 mois, lorsqu'on vous a reçu, vous étiez de retour d'un voyage en Pologne, vous aviez un peu vu la situation sur place, vous aviez toute une série de perspectives qui s'ouvraient devant vous. Finalement, du point de vue concret, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez mis en place à la fois en Pologne et en Ukraine ?
Alors, c'est clairement en Ukraine que les besoins sont les plus importants. Donc, nous avons pu établir 7 bases opérationnelles en Ukraine grâce à l'aide de soutiens locaux, de bénévoles locaux et de personnes que nous avons pu embaucher sur place. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, sur l'ensemble de ces 7 bases en Ukraine, on a à peu près entre 80 et 100 employés locaux, vraiment des Ukrainiens, encadrés par 10 de personnels MEDER. Et nous avons une approche multisectorielle, c'est-à-dire que vraiment le but premier de notre intervention est de répondre aux besoins des personnes. Donc c'est très concret, on va à la rencontre des personnes qui sont là, qui sont déplacées dans des centres d'accueil pour leur demander de quoi ils ont besoin. Et on répond à ces besoins. Alors les besoins peuvent être assez variés, besoin d'approvisionnement en médicaments. Aujourd'hui vous avez plus d'une pharmacie sur deux qui ne fonctionne plus en Ukraine. Donc, il y a des besoins d'approvisionnement en médicaments que l'on fait venir depuis la Pologne. Il y a également besoin de soutien psychologique et d'intervention post-traumatique pour les personnes qui ont quitté les zones de conflit et qui sont arrivées dans l'ouest du pays. Des distributions d'articles de première nécessité, des couvertures, des matelas, des articles d'hygiène. Et puis également, on intervient sur les infrastructures pour essayer de réparer au plus vite les bâtiments qui ont été endommagés et détruits. Alors déjà, les établissements de santé, on estime aujourd'hui qu'il y a environ 200 hôpitaux ou cliniques qui ont été bombardés. Donc, ils sont en situation de fonctionnement, évidemment, réduite, voire à l'arrêt. Donc, il y a besoin de rétablir ces centres de santé pour un fonctionnement de base. Et puis, on anticipe l'hiver. Alors, ça paraît difficile à croire.
Au vu de la canicule actuelle.
Avec la canicule que nous traversons. Mais on sait que l'hiver, les températures basses vont arriver en Ukraine dès le mois d'octobre. Et il faut réparer les bâtiments, permettre aux personnes de s'acheter ce qu'il faut, des vêtements chauds, pour aborder l'hiver qui va arriver.
Alors, vous êtes en Ukraine impliqué dans 7 villes, le chiffre 7. Donc, quelles sont ces villes ?
Oui, alors nous sommes à Ivano-Frankivsk, nous sommes à Ternopil, nous sommes également, nous faisons une mission de reconnaissance et d'évaluation des besoins à Kiev et Boutcha, nous sommes à Rivne, à Kelmitsky, à Vinitsaya, à Lutsk, qui sont des villes en fait qui ont accueilli le plus de personnes déplacées depuis l'Est. Donc aujourd'hui, c'est vraiment, on est dans le centre et l'ouest de l'Ukraine. Notre objectif est de se rapprocher de l'Est, là où les combats sont les plus intenses, pour essayer d'intervenir et de rejoindre les personnes, puisque là, c'est vraiment dans cette région-là que la situation humanitaire est absolument dramatique.
Vous avez parlé de deux villes hein, qui font un peu tilt à notre esprit, Kiev et puis surtout Boutcha. Qu'est-ce que vous faites à Boutcha dans cette ville qui a connu un massacre terrible?
Alors, nous avons deux activités principales. La première, c'est encore une fois le soutien psychologique. Donc, pour cela, nous avons pu former une centaine de bénévoles aux gestes un peu de premier secours en santé mentale grâce à l'intervention de nos équipes. Donc, là, évidemment, il y a un travail, comme vous pouvez l'imaginer, qui est absolument considérable à faire. Et deuxième volet, c'est la réhabilitation des bâtiments essentiels, santé, abri, pour permettre aux personnes d'avoir un toit, en fait. Les destructions, les niveaux de destruction sont extrêmement importants, et donc il faut pouvoir mettre les personnes à l'abri, et puis s'assurer que les infrastructures essentielles de distribution d'eau potable fonctionnent, et rétablir un minimum de chaînes d'approvisionnement.
Alors, vous êtes une très grande, très grosse ONG d'aide humanitaire. Est-ce que sur place, il y a beaucoup d'autres ONG suisses?
Alors, il y en a quelques-unes, mais ce sont plutôt des initiatives individuelles ou de petite ampleur, on va dire. Nous avons la chance d'être voilà, une ONG de taille moyenne, suffisamment importante pour avoir pu mobiliser des fonds et des équipes pour intervenir de façon assez large. Et sinon, effectivement, on a beaucoup d'initiatives individuelles. Bon, on a Terre des Hommes qui est présent, évidemment, sur place. Donc là, c'est aussi une ONG de taille relativement importante, similaire à la nôtre. Donc l'aide internationale, et en particulier de la Suisse, arrive sur place. Et donc il y a beaucoup de choses qui sont faites, c'est certain. Oui.
Et là, du point de vue du financement, comment est-ce que ça se passe? Vous bénéficiez de certains fonds publics, de fonds par exemple de la chaîne du bonheur?
La chaîne du bonheur, donc comme vous le savez, a fait une énorme collecte de fonds sur les mois de mars, début avril, a collecté 125 millions de francs. Donc nous avons une petite partie de ce financement. Alors aujourd'hui, c'est quelques centaines de milliers de francs que nous avons reçus, donc qui nous permettent de développer, de maintenir nos programmes. Je pense que la chaîne du bonheur se projette dans un soutien humanitaire de très long terme. Et donc, c'est pour ça, je pense que les fonds sont libérés petit à petit, parce qu'évidemment, déjà, il y a l'incertitude sur la durée du conflit en tant que tel. On ne voit pas très bien aujourd'hui d'issue de lumière au bout du tunnel. Et puis, les besoins humanitaires, compte tenu du niveau de destruction et de l'impact qu'il y a eu sur les infrastructures et les personnes, les besoins humanitaires vont rester là pendant très longtemps.
Mais est-ce que
Donc, il faut
vous
s'équiper pour
aimeriez
tenir.
bénéficier de davantage de soutien actuellement de la chaîne du bonheur pour vraiment parvenir à financer cette aide d'urgence et cet accompagnement psychologique dont beaucoup de gens ont besoin?
Oui, alors on est en contact évidemment permanent, quotidien avec la chaîne du bonheur à laquelle nous présentons des projets spécifiques sur certaines régions, et la chaîne du bonheur décide ou non de financer ces projets. Donc il y a un contact qui est très étroit avec la chaîne du bonheur, bien sûr.
Mais vous n'avez pas de demande particulière et spécifique, vous n'êtes pas frustré de votre côté de voir qu'au vu de ces 125 millions, vous avez touché, semble-t-il, 300 000 francs à ce jour.
Bah écoutez, c'est difficile à dire. Après, je pense que la chaîne du bonheur a des raisons de limiter la distribution de fonds pour le moment. C'est sûr qu'on aurait plus, on ferait plus. Mais bon, cela étant dit, l'argent n'est pas non plus le seul facteur limitant. C'est compte tenu de la taille du pays, des difficultés de déplacement à l'intérieur du pays et de l'ampleur de ce qui est à faire, il y a aussi un facteur humain. Nous, aujourd'hui, sur notre réponse en Ukraine, on est arrivé un petit peu à la limite de ce que l'on peut faire humainement avec les personnes que nous avons, les forces que nous avons. Donc, certes, on aurait plus d'argent, on pourrait faire un petit peu plus. Mais voilà, ce n'est pas qu'une question d'argent à ce stade. Il y a vraiment on a un élément important qui est les personnes et les ressources que nous arrivons à mobiliser. Et là, on est un peu à la limite de ce que l'on peut faire là pour le moment.
Si certaines personnes souhaitaient voir un petit peu ce que MEDER met en place sur place, il y a des reportages qui ont été réalisés par Blick, notamment des reportages vidéo où on voit des représentants de MEDER. Il y a aussi en Suisse romande un journaliste de la RTS, Nicolas Vultier, qui est allé sur place à Ivano-Frankivsk et puis qui a réalisé là-bas un reportage, sauf erreur.
Oui, tout à fait. Alors, vous pouvez retrouver tous ces reportages sur nos réseaux sociaux. Nous les avons relayés sur Twitter, Instagram, Facebook, etc. Ce qui vous permet un petit moment, pendant quelques minutes, un peu de vous immerger dans la réalité de ce qui se passe sur place, aux côtés de nos équipes.
Et on mettra
Ça donne
aussi ces
un.
liens sur la page web consacrée à cette
Très bien.
émission.
Voilà, ça
On
donne
le
un
fera aujourd'hui.
aperçu de la vie concrète, la vie quotidienne. En Ukraine, auprès de ces personnes déplacées.
Jean-Bernard Pailletet, lorsqu'on a eu l'occasion de préparer ensemble cette émission, vous m'avez dit, mais finalement, il faut faire attention aujourd'hui parce que on est focalisé sur l'Ukraine, mais il y a des urgences humanitaires aussi ailleurs sur la planète. Et vous aimeriez pas, en tant que MEDER, que finalement, on se focalise uniquement sur cette situation européenne?
Alors effectivement, on a eu un élan de solidarité absolument magnifique, incroyable là, sur les premières semaines après le démarrage du conflit sur l'Ukraine, donc avec énormément de fonds qui ont été mobilisés sur l'Ukraine. Maintenant, ce que l'on constate principalement sur l'Est de l'Afrique, c'est la progression et l'aggravation de la famine. Alors en fait, la raison est très simple et le lien avec le conflit en Ukraine est très clair, c'est que jusqu'au début du conflit, l'Ukraine était un des fournisseurs principaux de blé et de céréales pour le programme alimentaire mondial. Ces nourritures, ces céréales ne parviennent plus, n'arrivent plus dans ces pays de l'Est de l'Afrique. Vous avez en plus une aggravation des coûts de matières premières et de l'énergie, donc le transport devient beaucoup plus cher. Et cela vient en superposition d'une crise climatique terrible, puisque ça fait 4 ans qu'on a une sécheresse très importante dans la Corne de l'Afrique, et donc il n'y a plus de récolte. Donc, si vous voulez, l'empilement de ces facteurs font qu'aujourd'hui, on a une crise alimentaire qui est absolument terrible sur l'Est de l'Afrique, donc Somalie, le nord du Kenya, le Soudan, l'Éthiopie, également le Yémen, avec des indicateurs qui sont les plus dramatiques que ce que l'on a jamais connu dans le passé. Donc, l'Ukraine focalise beaucoup l'attention, mais effectivement, ce conflit en Ukraine a des répercussions très fortes ailleurs dans le monde et en particulier dans l'Est de l'Afrique, où on a une situation qui est absolument épouvantable.
Jean-Bernard Pailletet, merci beaucoup d'être venu à notre micro, au micro d'un air d'actu ce matin. Je rappelle que vous êtes le directeur de la communication de l'ONG MEDER et que si des gens souhaitaient s'informer davantage sur ce que vous faites, sur votre engagement en Ukraine et ailleurs dans le monde, il y a un site internet que l'on peut visiter facilement.
Oui, vous pouvez rendre visite sur notre site meder.org et puis également sur l'ensemble de nos réseaux sociaux où nous relayons toutes les informations quasiment en temps réel.
Si je me redresse quand j'ai chuté, ce n'est que par grâce. Et si ma promesse peut m'inviter à... Si je peux danser alors que j'ai boité, ce n'est que par grâce. Si j'essaye à nouveau quand j'ai raté, c'est par grâce. Je peux aimer le fond de ma solitude, ce n'est que par grâce. Si je peux marcher malgré les incertitudes, si je suis entendu quand je soupire, ce n'est que par grâce. Si mes pleurs se fondent dans mon rire.
Écoutez un air d'actu sur Radio Air. Nous évoquons aujourd'hui l'engagement d'ONG et d'églises chrétiennes en Ukraine. Sarah Makenjara, dans le cadre de l'Armée du Salut en Suisse, vous êtes responsable du développement, vous êtes co-responsable du développement international. Alors, comment se sont développés vos engagements en lien avec l'invasion russe en Ukraine? On avait eu des contacts notamment avec un couple de romans, les Staïès, qui sont connus dans la région lausannoise. Que deviennent-ils?
Alors, c'est clair que le couple Staïès, ils sont en Hongrie, et puis l'Hongrie, c'est un pays qui fait partie de l'armée du salut suisse, Hongrie-Autriche. Et puis, ils sont toujours très actifs dans l'aide humanitaire, soit à la frontière. Ils continuent d'envoyer des équipes pour 4-5 jours à Tisabek. Et puis, ils voient quand même que le nombre de réfugiés qui passent à la frontière sont en train de descendre, mais ils pensent que c'est aussi à cause du fait qu'à Budapest, il n'y a plus de place pour des logements long terme. Alors, les gens commencent à aller ailleurs. Mais ce qu'ils ont commencé à faire aussi, c'est avec l'aide pentecôtiste, ils ont traversé la frontière en Ukraine. Et puis là, ils ont vu qu'il y a vraiment une situation assez urgente dans une communauté de Roms qui vit vraiment dans des situations très vulnérables. Et puis, alors là, on va envoyer notre responsable d'urgence en Hongrie dans les prochaines semaines pour regarder si on peut commencer des activités dans cette région-là.
Ce qui est intéressant avec l'Armée du Salut, c'est que vous avez aussi ce qu'on appelle des postes, des sortes de paroisses réparties sur l'ensemble de l'Ukraine. Et finalement, vous essayez de développer toute une dynamique d'aide et d'entraide à partir de ces lieux de culte.
Exactement. Il faut dire que la présence de l'Armée du Salut en Ukraine elle-même, elle n'est pas très, très grande, mais on a 9 lieux actifs. Et puis là, vraiment, c'est des gens de l'Ukraine, volontaires, qui sont en train de répondre aux différents besoins. Actuellement, c'est vraiment l'aide humanitaire qui se fait pour les personnes déplacées à l'intérieur du pays. Et là, ils ne voient pas vraiment de réduction dans le nombre des personnes qui nécessitent de l'aide. Alors, pour l'instant, le focus, c'est vraiment l'aide humanitaire, les articles de première nécessité. C'est aussi prendre en charge les activités pour des enfants. Et grâce à notre réseau international, on peut faire des transports de produits d'aide d'urgence par la Pologne à Lviv. Et puis alors, grâce à ça, on arrive à continuer des activités dans les 9 endroits.
Comment est-ce que vous voyez la suite de votre engagement dans cette guerre en Ukraine?
Bon, c'est clair que c'est un petit peu difficile d'anticiper dans quelle direction les choses vont se développer. L'Armée du Salut est là pour aider selon les besoins. Alors, l'aide humanitaire va continuer dans les différents endroits où c'est nécessaire. On passe aussi à des activités un peu plus long terme, soit l'hébergement, l'accompagnement, l'intégration. Mais ce qu'on réalise aussi, c'est à cause de la crise économique qui maintenant se déroule un peu partout, il y aura aussi beaucoup plus d'autres personnes qui deviennent plus vulnérables dans les différents pays, notamment aussi en Hongrie, on le voit déjà. Et puis alors, je pense que l'Armée du Salut va aussi renforcer les autres programmes sociaux pour être sûr que personne est laissé
de côté laissé défavorisé dans un tel contexte. Il y a aussi un autre engagement un peu spécifique que vous avez, c'est un engagement en Roumanie. Dites-nous deux mots à ce propos.
Bon, l'Armée du Salut en Roumanie avait commencé à être très active à la frontière tout au début, mais maintenant on a mis le focus sur un projet de bon où on donne ça aux enfants et leurs familles pour qu'ils puissent aller acheter les choses dont ils ont besoin dans des magasins partenaires. Et là, on vient de commencer un projet avec World Vision. C'est un projet de transfert de cash pour environ 6 000 personnes pour qu'ils puissent avoir plus de liberté en fait de se prendre en charge.
Et ça, c'est dans quelle région de la Roumanie ou dans quelle ville?
À Bucarest.
À Bucarest. Et si on souhaitait en savoir davantage sur ce que l'Armée du Salut met en place à la fois en Hongrie, en Ukraine et en Roumanie, et aussi en Suisse, hein, rappelons-le, vous êtes aussi très, très engagé, notamment sur Genève, mais en Suisse alémanique aussi. Si on voulait en savoir davantage de vos engagements en lien avec cette crise ukrainienne, il y a un site internet.
Oui, armedusalut.ch, et puis après, il y a vraiment un site consacré à ce que fait l'Armée du Salut.
Merci beaucoup, Sarah Makanjara. Je rappelle que vous êtes co-responsable du développement international dans le cadre de l'Armée du Salut en Suisse. Loïc Aratibel, bienvenue.
Bonjour.
Alors, on a eu la joie de vous recevoir, je crois, à deux reprises. Vous êtes vous-même ingénieur du son, vous disposez d'un permis poids lourd et vous avez eu l'occasion d'emmener jusqu'à aujourd'hui, ou d'organiser en tout cas, 7 voyages de semi-remorque en Ukraine. Comment est-ce que ça s'est développé ces dernières semaines, cet engagement ?
Bah, tout simplement, les gens qui suivent un peu l'évolution grâce au réseau de Gospel Wave ou mes réseaux privés, qui voyaient que effectivement on allait jusqu'à Lviv en Ukraine et qui étaient rassurés ou intéressés par ça, le fait que les marchandises qu'ils pourraient donner, qu'ils ont à disposition, n'allaient pas être en stand-by dans des entrepôts dans des pays limitrophes. Et puis du coup, ils étaient intéressés, émus par le fait qu'on aille jusqu'en Ukraine. Donc que ce soit des transporteurs ou que ce soit des hôpitaux, des ONG françaises.
Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que vous vivez en Suisse romande, mais vous avez tout un réseau en France voisine et vous réussissez quelque part à mobiliser ce réseau français pour quelque part se montrer très généreux à l'endroit de l'Ukraine.
Exactement. Moi, je suis français, donc mon réseau est plutôt français. Et des hôpitaux nous ont contactés en sachant qu'on allait justement en Ukraine, des hôpitaux français pour donner des équipements, des réchauffeurs de sang, des électroencéphalogrammes, des tenues complètes, des masques. Et le dernier voyage, je crois, se montait à 450 000 euros de dons de la part de l'hôpital public de Saint-Étienne. Et puis après, grâce à Gospel Wave, qui a financé les transports, on a réussi à amener...
Donc Gospel Wave, c'est une association d'églises Gospel Center hein, de Suisse romande.
Exactement.
Et là, ils financent les trajets jusqu'à Lviv, en Ukraine.
Exactement, c'est ça.
Donc vous-même, vous vous êtes beaucoup investi dans l'organisation de ces voyages. Vous avez connu quelques surprises. Hein. Vous avez l'impression parfois que finalement, les frontières sont plus ouvertes pour vous que pour d'autres.
Alors, effectivement, j'ai jamais eu de soucis. Et sur ce qu'on a pu se rendre compte sur les derniers voyages, c'est que justement les Ukrainiens retournent en Ukraine. Donc les frontières sont saturées dans l'autre sens de ce que j'ai connu en mars quand j'y suis allé, où c'était compliqué de sortir d'Ukraine. Et quand on est arrivé, c'était sur le dernier voyage, il y avait 6 semi-remorques. Et on arrive, il y avait 10 km de bouchons d'attente, donc 3 jours d'attente avant d'entrer en Ukraine. Et on pouvait pas passer. Et là, il y a une berline d'officiel polonais, je sais pas d'où il sort, il s'arrête et il donne la consigne au policier qui était là de faire passer les six camions dont j'avais la responsabilité directement tout droit, passage rapide en douane, et on a pu aller jusqu'à Lviv sans interruption, si ce n'est les 2 heures de formalité douanière. Quoi.
Parce que, rappelons-le, dans votre planification, vous avez un engagement professionnel à assumer. Un voyage en Ukraine, ça prend 7 jours.
C'est 7 jours. Il y a 5 jours sur la route, et puis les jours de préparation, de reconditionner les palettes, des fois qui nous arrivent pas super bien conditionnées pour optimiser les volumes, les poids. Parce qu'un camion, c'est quand même ça coûte quand même cher. Donc l'idée, c'est de vraiment les remplir au maximum.
Donc il faut juste imaginer que si vous avez à attendre 3 jours à la frontière, c'est pas terrible pour votre emploi du temps.
Non, ça met quelque peu en péril l'emploi du temps. Et puis en plus de ça, l'idée, c'est quand même que les marchandises arrivent le plus vite possible. Je peux vous dire, quand on est arrivé, donc sur le dernier voyage, j'avais 4 semi-remorques de matériel d'hôpitaux. À destination des hôpitaux, on a dû signer des décharges comme quoi ça allait bien dans un hôpital avec des produits, de la morphine, des produits, moi j'y connais pas grand chose, mais des produits dédiés aux chirurgiens, ils étaient contents qu'on arrive vite aussi.
Vous-même, à titre personnel, qu'est-ce que ça vous a apporté, ces voyages qui se construisent dans une perspective chrétienne?
Ouais, alors dans une perspective chrétienne, ça m'a montré que je vous avais raconté comment j'avais été sollicité par les réseaux Gospel Forum, Gospel Wave, et comment j'étais allé sans savoir ce que j'allais faire, que au dernier moment un copain m'avait donné un semi-remorque, puis j'étais rentré tout seul comme ça en Ukraine le 2 ou 3 mars. Et puis là, avec le recul, je m'aperçois juste que on sait jamais sur quoi va déboucher nos actes. Et en l'occurrence, les gens ont vu que j'y suis allé. Un deuxième transporteur a dit ouais, j'y vais avec toi. Puis je crois qu'on est en tout là, juste de ce que je sais, Gospel Wave, on doit être à une dizaine de transporteurs qui font maintenant des voyages. Je ne sais combien de camions qui sont rentrés en Ukraine. Juste, voilà, quand on entreprend quelque chose, faut jamais se dire, mais non, je suis incompétent, je suis pas parfait.
Il faut oser risquer.
Ça sert à rien ce que je vais faire. Et c'est Dieu, moi je vois Dieu qui transforme notre incompétence. Je suis pas transporteur, j'ai jamais eu de soucis pour rentrer en Ukraine, même avec 6 semi-remorques, ce qui est pour certains hallucinant parce qu'ils n'y arrivent pas.
Nicolas Lehmann, vous êtes vous-même pasteur dans l'église Gospel Center d'Oran-la-Ville, donc vous êtes en lien avec cette dynamique Gospel Wave. Comment est-ce que vous voyez ce qui se passe avec l'OIT?
Alors, on est très réjouis, en fait, de comment les choses se sont développées. On est parti au départ avec un petit projet de faire un rassemblement de produits de première nécessité dans notre région et en Suisse romande. Et puis, on a très vite vu que les choses allaient de manière beaucoup plus grande et beaucoup plus large que ce qu'on avait imaginé au départ. Et on a, moi, je dirais, été impressionné de voir la générosité, de personnes simplement dans notre région. Et en Suisse romande, et ensuite la générosité d'entreprises, d'hôpitaux qui ont donné des biens et qui ont permis vraiment à ces transports de se réaliser. Parce que les camions, c'est bien, mais c'est mieux quand ils sont remplis.
Et puis quand on finance, au jour d'aujourd'hui, le mazout qui va avec pour qu'il puisse assurer le transport jusqu'en Ukraine, comment est-ce que, Nicolas Lehmann, vous envisagez la suite? Est-ce que c'est toujours possible d'amener des denrées dans votre église au Gospel Center à Oran-la-Ville?
Non, alors on n'a plus poursuivi la collecte de biens directement de manière locale, donc on a fait ça sur deux périodes, une première période au début de la guerre, et puis ensuite on a refait une deuxième campagne fin avril, début mai. Actuellement, on a arrêté la récolte de cette manière-là, par contre on a toujours encore des entreprises qui nous mettent à disposition de la nourriture, des biens de première nécessité, de l'eau, des médicaments.
Et vous assurez le transport.
Voilà.
Merci Nicolas Lehmann. Je rappelle que vous êtes pasteur du Gospel Center d'Oran-la-Ville et que quelque part vous êtes un peu le référent spirituel de cette dynamique Gospel Wave qui emmène des camions, des vivres et toutes sortes de matériel à la fois depuis la Suisse romande mais aussi depuis la France voisine jusqu'en Ukraine. Merci aussi à Loïti Aratibel, ingénieur du son et en même temps chauffeur poids lourd. Merci aussi à Sarah Makanjara de l'Armée du Salut et à Jean-Bernard Paltet de MEDER de nous avoir rejoints aujourd'hui pour faire un peu le point avant l'été sur l'engagement de chrétiens à l'endroit de la crise qui prévaut actuellement en Ukraine. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous souhaitez réécouter cette émission ou d'autres de Radio R, ne manquez pas de visiter notre site www.radio-r.ch. Il y aura un article très rapidement en lien avec cette émission et vous aurez toutes les informations nécessaires pour vous connecter avec les uns ou avec les autres. Merci à Erol pour son aide précieuse à la technique. Merci aussi à toute l'équipe web de Radio R, Prisca et Daniele pour la page spéciale que votre radio musicale chrétienne de Suisse romande consacre à la crise ukrainienne. Excellente suite de journée à chacune et à chacun et à demain.
Un air d'actu avec Serge Carrel.